grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Comme le démontre le neuroscientifique Stanislas Dehaene dans son laboratoire de recherche, il n'existe pas de boss ou de gêne des maths. Par conséquent, si cette discipline vous effraie, n'ayez pas peur, comme le disait le pape Jean-Paul II. Il n'est jamais trop tard pour se plonger dans la magie des mathématiques. Dans notre vie quotidienne, que nous le voulions ou non, nous sommes tous immergés dans un monde mathématique. Quand nous nous promenons dans la nature, quand nous regardons un tableau de Leonardo da Vinci, Léonard de Vinci au musée du Louvre, quand nous passons des bilans sanguins, quand nous écoutons un concerto de Mozart, quand nous calculons notre taux d'emprunt immobilier, quand nous commandons sur internet, quand nous déclamons un alexandrin, quand nous préparons un 4 quarts ou quand nous bricolons. Et puis les maths permettent également de penser autrement n'importe quelle situation de la vie de tous les jours. Faut-il par exemple marcher ou courir quand il pleut? Pourquoi les bus arrivent-ils par deux ou par trois après une longue attente? Comment couper un gâteau en 7 parts égales? Pourquoi avons-nous moins d'amis que nos amis sur les réseaux sociaux? Ou encore pourquoi dans une classe de CP ou de 4e, il existe une chance sur deux pour que deux élèves soient nés le même jour? Et puis nous verrons que les maths permettent d'aller à rebours de certaines intuitions. Vous découvrirez par exemple la mystérieuse loi des supermarchés. Avec nous ce matin pour s'amuser avec les maths du quotidien, le mathématicien Mickaël Launay, créateur de la chaîne YouTube MicMath, et Louise Cunéo, rédactrice en chef au Point. Standard ouvert au 01 45 24 7000. Les enfants et les ados peuvent nous appeler ce matin. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
On retrouve tout à l'heure votre ordonnance philosophique.
Oui, avec une réflexion sur l'articulation possible entre mathématiques et philosophie, alors qu'on a souvent tendance à classer, hein, vous savez, les gens entre scientifiques et littéraires.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébé.
Bonjour Mickaël Launay.
Bonjour.
Vous êtes mathématicien, ancien élève de l'école normale supérieure, et vous avez créé la chaîne de vulgarisation scientifique MicMath, qui compte 430 000 abonnés, et j'en fais partie. Après le grand roman des maths, vous venez de publier chez Flammarion un livre qui a passionné, le nul en maths que je fus, le théorème du parapluie, sous-titré « L'art d'observer le monde dans le bon sens ». Pourquoi, Mickaël Launay, les mathématiques permettent de ne plus voir le monde de la même manière ?
Les mathématiques, c'est avant tout une science de l'imagination. C'est-à-dire que quand on fait des mathématiques, on parle de choses abstraites. Quand on parle de nombres, de figures géométriques, c'est des idéalités. Donc déjà, c'est quelque chose de très exaltant de se plonger dans ce monde-là. Et puis surtout, ce monde-là, il nous permet de modéliser le monde réel, celui dans lequel on vit. Il nous permet justement de faire des raisonnements, de comprendre, de changer de point de vue sur certaines petites choses qu'on voit au quotidien, sur lesquels on se dit mais comment ça marche, on est curieux du monde qui nous entoure, on se demande, on a envie de comprendre. Et rentrer dans ce monde abstrait, modéliser ça par des mathématiques, ça nous permet d'aller plus loin, ça nous permet justement de changer de point de vue et d'un seul coup de provoquer ce déclic qui est si agréable, ce moment où on se dit ah ça y est j'ai compris.
C'est un oxymore mathématique du quotidien?
Pas forcément, non, il y a les deux, c'est-à-dire que les mathématiques c'est une discipline qui est tellement vaste qu'on le trouve dans le quotidien, on le trouve dans des sciences assez complexes, et puis les mathématiques peuvent être aussi totalement déconnectées de choses réelles. Il y a des tas de mathématiciens, mathématiciennes qui travaillent sur des mathématiques parce qu'elles sont belles en elles-mêmes. C'est comme en astronomie, quand on va trouver une nouvelle planète, on va observer le ciel, et ça n'a pas forcément d'application dans notre vie réelle sur Terre, mais juste parce que le plaisir de comprendre, le plaisir de trouver, c'est une science et c'est agréable de savoir, on est curieux, on a envie de savoir.
Votre livre permet, après sa lecture, de changer de point de vue sur notre quotidien, sur notre monde, et d'aller surtout à l'encontre de certaines de nos intuitions.
C'est ça. En général, quand on réfléchit sur le monde qui nous entoure, on est habitué, on voit des choses qui se produisent toujours de la même manière, de jour en jour. Et puis, on se fait des schémas mentaux. On se dit, tiens, ça a l'air de fonctionner comme ça. Puis, tel phénomène, il a l'air de fonctionner de telle manière. Et puis, justement, les sciences, les maths, c'est un formidable outil pour bousculer ça, pour bousculer nos préjugés, pour dire, ah, et si on pensait différemment, et si on le voyait, parce que des fois, il y a un petit détail qui fait qu'on se dit, la règle qu'on avait l'impression qu'on s'était mise, un des exemples assez simples, quelque chose qu'on a tous vécu quand on était enfant, c'est le moment où on apprend que la Terre est ronde. Et on se dit, mais alors, c'est quoi le bas et le haut? Comment ça se fait que ceux qui sont de l'autre côté de la Terre, et les Australiens, les Néo-Zélandais, etc., ne tombent pas dans le vide? Et donc là, on se dit, on a un schéma mental, on se dit, bon, il y a le bas, il y a le haut dans l'univers. Et puis, on est obligé de le remettre en cause en disant, en fait, le bas, c'est pas une direction qui est fixe dans l'univers, c'est quelque chose qui va vers le centre de la Terre. Et donc, finalement, eh bien, ils ont beau être de l'autre côté de la Terre, ils ont quand même les pieds en bas et la tête en haut, mais leur bas et leur haut n'est pas le même que le nôtre. Et ça, c'est quelque chose, c'est un processus par lequel on est tous passés. Et quand on continue à faire de la science, des déclics comme ça, des éclairs de compréhension où on se dit, ah, il faut changer notre façon de voir. Et une fois qu'on a changé, eh bien, c'est plus élégant, on est satisfait, il y a une sorte de jubilation à comprendre ces choses-là.
Jubilation et émerveillement. Pour vous, les mathématiques peuvent être une source d'émerveillement pour illuminer notre vie quotidienne.
Ah oui, complètement. C'est-à-dire que c'est une façon de voir le monde, mais comme des tas d'autres disciplines. C'est-à-dire que je fais souvent la comparaison avec des tas d'art, avec de la culture, avec quand on écoute de la musique, ça va être une illumination aussi. Et effectivement, les mathématiques nous permettent d'observer le monde à travers un certain prisme. Alors quand on est mathématicien, qu'on en fait tous les jours, que moi je pratique ça au quotidien, donc j'apprends à voir un peu des mathématiques partout et à les comprendre partout. Mais justement, c'est très agréable de montrer quand on n'a pas l'habitude de dire ah tiens, on va lire un livre, on va voir quelque chose sur internet et on va se dire après on va y être attentif, on va se dire ah je vais regarder la prochaine fois que je verrai ça, j'y ferai attention.
D'ailleurs, je ne vais plus au supermarché de la même manière après avoir lu votre livre, mais on reviendra tout à l'heure sur cette loi des supermarchés. Bonjour Louise Cunéo.
Bonjour Ali.
Alors vous êtes rédactrice en chef du hors-série du Point, les maths au quotidien. Alors après avoir lu votre hors-série, il sera difficile de dire qu'on n'aime pas les maths. Même notre réalisatrice Claire Destacan, historienne de formation qui n'aimait pas les maths, a désormais envie de faire une retraite pour apprendre les maths plus sérieusement. Que nous dit le neuroscientifique Stanislas Dehaene ? Il n'existe pas de gène ou de boss des maths.
Non, il n'existe pas de boss des maths, ou plutôt si. Il explique qu'il en existe une justement, puisque tout le monde l'a. Et c'est-à-dire que les mathématiques sont à la portée de tous et il n'est pas nécessaire d'avoir des oncles ou des grands-parents mathématiciens pour être soi-même un mathématicien en herbe. Tout le monde peut devenir accro aux maths. Et moi, ça m'est venu, par exemple, bien après le bac, quand j'ai commencé à regarder les vidéos de Micmat. Ça, c'est pas une blague, c'est vraiment la réalité. Les maths, c'est à la portée de tous. Et il n'y a rien de mieux pour s'en rendre compte que de regarder une vidéo de Michael Launay, par exemple.
Ah ben, je suis totalement d'accord avec vous. Vous, Michael Launay, vous attrapez le virus des maths à l'âge de 15 ans grâce à un prof assez génial.
Alors oui, c'est vraiment à ce moment-là que j'aimais bien les sciences avant en général. Et le moment où je me suis dit c'est vraiment les maths qui me plaisent, effectivement, c'est au lycée. J'avais un prof de maths qui s'appelle Dominique Souder et qui nous faisait des tours de magie mathématiques. Donc il venait avec ses cartes, avec ses ficelles, avec ses dés. Et puis il nous faisait un tour et on se demandait comment ça marchait, et là, il nous disait, pour comprendre, il faut faire des maths. C'est-à-dire que c'était pas de la prestidigitation, il avait rien dans les manches, il avait aucune manipulation particulière, mais c'était juste un truc à comprendre sur le comptage de cartes, sur une propriété mathématique qui faisait que telle carte se retrouvait au bon endroit dans le paquet.
Louise Cunéo, il n'y a pas d'âge, donc, pour aimer les maths, surtout quand cette discipline n'est pas abordée dans un contexte scolaire,
Voilà. Moi, je pense que c'est quand même le truc le plus important, c'est et de dire maintenant, les maths, elles sont partout. Elles vont s'en servir pour faire ses courses, pour cuisiner, pour bricoler, pour se déplacer, pour prévoir, pour argumenter aussi. Tout ça, c'est des maths, finalement. Et elles permettent en plus, qui est quelque chose d'assez exceptionnel, de discuter avec le monde entier. C'est un peu comme l'anglais. Grâce aux maths, on peut entrer dans les sciences, la biologie, les neurosciences, la santé, etc. Mais aussi en sociologie, par exemple, l'approche statistique permet d'entrer dans la sociologie. Les maths, elles sont partout, donc on n'a pas le choix. On ne peut pas dire « je suis nul en maths, donc je m'en passe ». Les maths, elles sont partout, autant s'y faire, et les prendre avec le sourire, c'est encore mieux.
Alors, nous sommes immergés dans un monde mathématique, il est donc important de surmonter sa peur des maths. Selon une étude de l'OCDE, 38% seulement des adultes maîtriseraient les notions fondamentales permettant les calculs de base comme l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, la proportionnalité, les pourcentages. Votre chaîne YouTube Micmat, Michael Launay, ça nous permet d'avoir moins peur des maths, d'être moins effrayé, d'aborder la discipline sous un angle jubilatoire, amusant.
C'est ça. En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on peut ne pas forcément avoir envie de devenir mathématicien, de devenir ingénieur, de faire un métier qui est dans les sciences. Mais quand on dit que tout le monde peut aimer les maths, c'est qu'il n'y a aucune raison que d'être traumatisé par les maths, vraiment de sortir d'un cours de maths en se disant « oh là là, c'est vraiment pas pour moi ». Chacun peut, à son niveau, faire des maths, chacun peut comprendre les mathématiques élémentaires, et il y a moyen vraiment, je parlais de jubilation tout à l'heure, de jubiler même avec des maths élémentaires, même en apprenant l'addition, la multiplication, les choses de base, eh bien, il est possible de prendre du plaisir, de se dire « Ah, je comprends », de mettre du sens là-dessus. Et effectivement, c'est dans ce sens-là que... Il faut aller vers un monde où on essaye de faire en sorte que les mathématiques puissent être un outil de plaisir et de compréhension pour tout le monde et de savoir pourquoi on le fait.
Mais des avocats du diable pourraient vous dire, enfin, vous êtes un ancien élève de l'école normale supérieure, pourquoi rendre les maths, ludiques, jubilatoires? Non, les maths, c'est quelque chose d'ardu, qui demande de l'effort, il faut... Qu'est-ce que vous répondez à ces...
Je crois que vous faites une mauvaise idée de la façon dont on fait des maths à l'école normale supérieure. On s'amuse beaucoup en faisant des maths et il y a justement un très grand plaisir à les pratiquer. Les mathématiciens et les mathématiciennes s'amusent au jour le jour en faisant leurs mathématiques. C'est un défi un défi, c'est comme un puzzle, comme un jeu, on a envie de résoudre, on a un objectif, on a un problème, on a envie de le comprendre et donc on cherche le chemin pour y arriver.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, sauf que on est quand même en France et dans un système scolaire dans lequel les mathématiques ont été un outil de sélection, quand même le principal outil de sélection, et que le pas bon en maths, il est sélectionné par défaut, il est mis sur le côté ou sur une voie où il y a moins de mathématiques. Alors peut-être ça va changer. Il paraît qu'il y a une réforme de bac qui va changer ça, mais c'est compliqué aussi d'être dans cette culture des mathématiques comme l'outil de sélection.
Oui, et je pense que ça fait beaucoup de mal aux maths, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de pression sur les élèves, et ça crée beaucoup de souffrance de la part des élèves qui n'y arrivent pas, qui vont se sentir inadaptés à une certaine façon d'apprendre les maths, à une certaine façon de répéter des procédures derrière lesquelles ils ne mettent pas forcément beaucoup de sens. Et c'est pour ça que oui, il faut aller vers un enseignement des mathématiques. Et il y a beaucoup de profs de maths qui réfléchissent à ça et qui mettent des efforts pour aller vers ça. Un enseignement des mathématiques qui met du sens dans les mathématiques pour tous. C'est-à-dire qui ne prépare pas seulement une élite qui a des prédispositions pour ça. Parce qu'effectivement, ce que dit Stanislas Dehaene, c'est que tout le monde a des prédispositions pour faire des maths au départ. Mais après, il y en a qui vont avoir plus envie, moins envie, selon le parcours personnel, la vie qu'on va avoir. Il y en a qui vont avoir plus envie de se plonger dans une autre discipline et qui vont consacrer moins de temps aux maths. C'est pas grave, c'est très bien. Au contraire, il en faut pour tous. Mais faire en sorte que ceux qui ne vont pas se consacrer aux maths puissent quand même ne pas sortir traumatisés du système scolaire et qu'ils puissent, rétrospectivement, quand ils sont adultes, se dire... Les maths, c'était pas ce que je préférais, mais j'ai passé des bons moments avec.
Allez, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Michael Launay au 01 45 24 7000. Alexia Rivière, Clara Marliou et Julia Macarez m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Claire Destacan. Et je vous propose d'écouter une chanson de 1989. Cette année-là naissait Daniel Radcliffe, Harry Potter au cinéma, et disparaissait l'actrice Bette Davis. Belle journée à l'écoute de France Inter.
That's a magic number. Three. Yes, it is. It's the magic number. Three. Somewhere in this hip-hop soul community was born three, they stubbed me, and that's a magic number.
What does it all mean?
Difficult preaching is posthumous pleasure. Pleasure in preaching starts in the heart. Something that stimulates the music in a measure. Measure in the music, racing three parts. Casually see, but don't do like the soul. Cause seeing and doing are actions for monkeys. Doing hip-hop, hustle, no rock and roll. Unless your name's Brewster, cause Brewster's a punk. Three. Parents let go, cause it's magic in the air. Criticizing rap, shows you're out of order. Stop looking, listen to the phrase in Fred Astaire's. And don't get offended while Mace Dosido's your daughter. A dry camera roll system is now set. Fly around the store under Daisy Productions. It stands for the inner sound. Y'all in your Quebec, that the action's not a trick, but show me the function. Everybody wants to be a DJ, everybody wants to be an MC, but being speakers are the best, and you don't have to guess. De La Soul Posse consists of three, and that's the magic number.
Three.
This here piece of the pie is not dessert, but the cost that we dine, and three out of every darn time, the effect is, what a daisy grows in your mind. Showing true position, this here piece is kissing the part of the pie that's missing, where that negative number fills up your casualty. Maybe you can subtract it, you can call it your lucky partner, maybe you can call it your adjective. But odd as it may be, without my one and two, where would there be my three? Mace, posse, me, and that's the magic number.
What does it all mean?
Focus is formed by flaunt of the soul. Souls who flaunt style gain praises by pounds. Common on speakers who honor the scroll. Scroll written daily creates a new sound. Listeners listen cause this here is wisdom. Wisdom of a speaker, a dumb and a plug.
set aside a legal substance to feed them for now. Get them high off this dialect drug. Time is a factor, so it's time to count. Count not the negative actions of one. Speakers of soul say it's time to shout. Three forms the soul to a positive sum. Dance to this fix and flex every muscle. Space can be filled if you ride like my lumber. Advance to the tune, but don't do the hustle. Shake, rattle, roll to my magic number.
Now you may try to subtract it, but it just won't go away. Three times one.
What is it?
One, two, three.
That's a magic number.
De la soul interprétée The Magic Number.
Car rien n'est pas rien.
Grand bien vous fasse.
La preuve, c'est qu'on peut soustraire.
Ali Rebéi.
Rien moins rien égale moins que rien.
Sur France Inter.
10h22 et nous attendons ce matin toutes vos questions sur les maths du quotidien au 01 45 24 7000. Avec nous, Mickaël Launay alias Micmat et Louise Cuneo qui a dirigé le hors-série du Point Les Maths au quotidien. Tiens, Mickaël Launay, les mathématiques peuvent nous permettre de comprendre pourquoi nous avons l'impression d'avoir moins d'amis en moyenne que nos amis sur les réseaux sociaux. Et cette impression est due à un biais mathématique. Expliquez-nous.
Exactement, c'est encore une fois un cas de figure où spontanément on a tendance à mal penser un problème et puis dès qu'on s'y penche un peu plus et qu'on essaye de modéliser ça par des mathématiques, eh bien on se dit « ah mais finalement c'est tout à fait normal ». C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir des amis sur Facebook, sur Twitter, etc. Et puis vous voyez combien vous avez d'amis, puis vous regardez vos amis, vous vous dites combien ils en ont eux. Et en moyenne, on a toujours l'impression que eux ils en ont plus. Et donc d'une certaine manière, on est un peu le moins populaire du groupe ou qu'on est un peu en dessous en termes de statistiques. Et en réalité, c'est un biais qui est totalement normal, c'est-à-dire que si vous créez un graphe, un réseau parfaitement aléatoire où vous reliez des gens par des liens d'amitié totalement aléatoires, eh bien ce phénomène il apparaît aussi. Parce que il y a une sorte de biais qui est que les gens qui ont beaucoup d'amis, eh bien, vont être les amis de plus de gens. Donc, vous avez plus de chances d'avoir des gens populaires dans vos amis et donc qui font augmenter votre moyenne. Et donc, vous avez tendance à voir de manière surreprésentée, les gens qui ont beaucoup d'amis dans les réseaux sociaux et donc ils font beaucoup augmenter votre moyenne et ça vous met un peu en dessous de la moyenne.
Et donc, les mathématiques nous mettent un peu de baume au cœur.
Voilà, c'est ça. On se dit que finalement, c'est normal. Et puis, quand on refait le calcul, après, on se dit que finalement, on est totalement dans une situation normale.
Alors, dans votre livre, Le théorème du parapluie, vous nous aidez à remettre en question de nombreuses intuitions qui peuvent nous faire penser mal. Exemple, en se promenant dans les allées d'un supermarché, on peut découvrir une passionnante pépite mathématique qui peut rendre amusant les courses du quotidien. Il suffit de noter des prix très divers sur un carnet ou sur un smartphone. 2,30€, 1,08€, 12,49€, 22,99€, des nombres qui semblent aléatoires quand on les lit rapidement, et puis
pas tant que ça.
Et puis
ça fait vraiment partie des choses qu'on a sous les yeux tous les jours et on peut ne pas s'en rendre compte, et le jour où on s'en rend compte, mais ça devient intriguant. Si vous regardez les premiers chiffres de chaque prix, donc par exemple, si vous avez quelque chose qui coûte 23€, vous regardez juste le 2, le premier chiffre. Eh bien, vous regardez toutes les étagères du supermarché et vous les alignez les uns derrière les autres, et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup plus de prix qui commencent par un 1, et un peu moins. Alors c'est environ 30% des prix qui commencent par un 1 en général, puis après il y en a environ 25% qui commencent par un 2, puis un petit peu moins qui commencent par un 3, etc. Et il y en a quasiment pas qui commencent par un 8 et par un 9. Alors quand on voit ça, on se demande mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le phénomène ? Est-ce que il y a une raison commerciale derrière ? Est-ce que c'est une volonté d'avoir des petits prix dans les supermarchés ? Et puis quand on y réfléchit un petit peu, et c'est ce qu'a découvert un mathématicien américain qui s'appelle Frank Benford, et qui s'est rendu compte que partout dans la nature, ce même phénomène se produit. Si vous regardez l'ensemble des grandes villes du monde et que vous regardez leur population, Eh bien, 30% des villes du monde ont des populations dont le premier chiffre est 1-1. Si vous regardez les planètes du système solaire, il y a 8 planètes dans le système solaire principal, et il y en a la moitié, 4 sur les 8, dont le premier chiffre est 1-1, à commencer par la Terre, qui fait 12 000 km de diamètre. Alors comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'il y a cette préférence ? On peut se dire en général les mathématiques, justement, c'est une science qui est neutre, il ne devrait pas y avoir de chouchou parmi les chiffres. Et en fait, c'est là qu'on se dit, c'est là quand on commence à réfléchir, qu'on se dit que c'est pas la nature qui est biaisée, c'est nous. Mmh. C'est nous qui comprenons mal, c'est nous qui avons une mauvaise intuition des nombres parce qu'on s'est conditionné à penser d'une certaine manière. Et en fait, la nature nous dit que ce qu'il faut regarder, c'est pas les intervalles d'un point de vue additif, mais d'un point de vue plus multiplicatif. C'est-à-dire que quand on regarde les prix qui sont entre 10 euros et 20 euros, donc qui commencent par un 1, entre 10 et 19,99, il y a un intervalle qui va du simple au double. Donc on a une gamme assez importante de produits là-dedans. Alors que quand on regarde entre 80 euros et 90 euros, donc ceux qui commencent par un 8, eh bien finalement ça va pas du simple au double, il y a à peine 12% d'écart entre les deux. Et donc d'un point de vue relatif, comme ceci, l'intervalle entre 10 et 20 est plus grand que l'intervalle entre 80 et 90, et donc c'est normal qu'il y ait plus de prix entre 10 et 20 qu'entre 80 et 90. Et quand on a compris ça, alors il y a plein d'exemples qui permettent de le voir, eh bien ça permet de jeter un regard nouveau sur plein d'autres phénomènes du quotidien et se dire « Ah, on pensait mal les nombres, et maintenant qu'on a appris à penser un peu différemment, eh bien on comprend mieux plein de choses. »
Et vous nous apprenez à penser de façon multiplicative.
Voilà, c'est exactement ça. Alors la loi de Benford, c'est une façon d'appréhender les choses, c'est une porte d'entrée dans cette pensée multiplicative où on regarde le rapport entre les nombres, c'est-à-dire de dire qu'entre 10 et 20, on va du simple au double, plutôt que de dire qu'il y a 10 d'écart. Le 10 d'écart, il n'est pas si pertinent que ça, finalement. Et puis, cette façon de penser multiplicativement, elle est applicable à plein d'autres choses. Par exemple, si on pense de manière un peu classique, on peut dire que la taille de la Terre, la taille de la Terre est plus proche de la taille d'une balle de ping-pong que de la taille de Jupiter. Parce qu'il y a que 12 000 km entre la taille de la Terre et celle de Jupiter, alors qu'il y a, je ne sais plus, quelques 100 000 km de différence entre la Terre et Jupiter. Et donc là, on se dit, c'est pas logique, parce que la Terre et Jupiter, ce sont deux planètes, elles appartiennent un peu au même monde, alors qu'une balle de ping-pong, c'est beaucoup plus petit. Et si on se met à penser de façon multiplicative, eh bien là, cette fois, on comprend beaucoup mieux, parce que le rapport de taille entre la Terre et une balle de ping-pong est beaucoup plus élevé que le rapport de taille entre Jupiter et la Terre.
Petite parenthèse sur l'expérience de Frank Benford. En 1938, donc cet ingénieur et physicien américain analyse les données numériques issues de plus de 20 000 observations d'origine variée. Il constate que 30% des nombres observés commencent par 1, 18% commencent par 2 et le pourcentage du chiffre 9 est de seulement 5%. Louise Cuneo, du Point.
Oui, non, à propos de nombres ou de chiffres qu'on retrouve un peu partout dans la nature, il y a ce qu'on appelle la suite de Fibonacci, qui est une suite de nombres 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, qu'on retrouve assez régulièrement dans la nature. Et ça, c'est une observation aussi assez simple qui permet de le regarder.
Mais pour bien comprendre cette suite de Fibonacci que vous venez d'évoquer, je vous propose d'écouter un extrait de cette vidéo du National Geographic.
La nature peut sembler aléatoire, mais il existe un ordre invisible que les mathématiques permettent de voir. Prenez une image au rayon X d'un bras humain. Elle met en avant une suite arithmétique que l'on retrouve partout dans la nature. Un os du haut du bras est relié à deux os de l'avant-bras, eux-mêmes reliés à 8 autres os du poignet, qui à leur tour sont prolongés par 5 os de la main et 3 os dans chacun des doigts. Ces chiffres, 1, 2, 3, 5 et 8, font partie d'une suite mathématique bien connue, la suite de Fibonacci. Il s'agit d'une suite dans laquelle chaque valeur est la somme des deux précédentes. Reportez ces nombres sur un graphique. La courbe formée est une spirale. Le mouvement hélicoïdal correspond à celui d'une pomme de pin. Cette forme se retrouve dans la coquille d'ammonite. Ce n'est pas anodin.
Alors vous, Michael Launay, comment vous expliqueriez la suite de Fibonacci à un enfant de 10 ans qui nous écoute peut-être ?
Alors il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que la suite de Fibonacci en elle-même, elle est très simple à comprendre, effectivement, c'est simplement chaque terme vaut la somme des deux précédents, donc 1 plus 1 vaut 2, 1 plus 2 vaut 3, 2 plus 3 vaut 5, etc. Après, ce qui est intéressant à comprendre, c'est pourquoi on la retrouve parfois dans la nature. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un phénomène va reproduire cette suite de Fibonacci?
Quand on observe par exemple que les nénuphars ont 5 pétales, ou les, pareil pour les géraniums, ou les boutons d'or, ou quand on coupe les 5 pépins d'une pomme, une pomme qu'on coupe sur son équateur, eh ben on se rend compte qu'elles sont disposées en forme d'étoile à 5 branches. Voilà, la suite de Fibonacci, on l'observe dans la nature.
Alors en fait, là, il y a quand même quelque chose. Pour les pépins d'une pomme, je ne sais pas, je ne connaissais pas cet exemple. Mais effectivement, il y a des endroits où on la retrouve. C'est le cas, par exemple, oui, dans les ananas, dans les pommes de pin, dans les tournesols, etc. Où là, il n'y a pas de doute, on la voit vraiment se reproduire. Et à chaque fois, on a cette suite qui arrive. Après, il faut se méfier parce que c'est aussi une suite qui d'une certaine manière est tellement enthousiasmante que on peut avoir tendance à la voir un peu partout, ouais. Y compris là où elle n'est pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que 8 est un nombre qui est dans cette suite que dès qu'on a 8 quelque chose, forcément c'est la suite de Fibonacci. C'est peut-être juste un hasard si on tombe sur le même nombre. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut être assez attentif, et c'est pour ça que les maths sont importantes. C'est-à-dire que c'est pas seulement dire voilà, on a des nombres et c'est comme ça. Mais c'est aussi, en mathématiques, ce qui est important, c'est le raisonnement, c'est le chemin, c'est comment est-ce qu'on arrive et comment est-ce qu'on interprète. Ces nombres de Fibonacci, ils ont un sens, et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ça a du sens de dire que là, ici, ce 8-là, il correspond bien à un nombre de Fibonacci, parce qu'on a le processus de construction mathématique qui se produit dans l'apparition de ce nombre dans la nature.
Et puis cette suite de Fibonacci a un lien avec le nombre d'or, le fameux nombre d'or, 1,61,80,33, qu'on retrouve dans des tas de domaines. Le nombre d'or, c'est phi hein, en grec, hein, c'est ça?
C'est ça, c'est un nombre qui vaut environ...
C'est quoi ce nombre d'or là, qu'on retrouve partout dans notre vie quotidienne, en art, en architecture?
Alors, il vaut environ 1,618, et quand il apparaît en mathématiques, sa propriété fondamentale, c'est que quand on le multiplie par lui-même, ça augmente de 1. Donc, vous faites 1,618 et des poussières multipliées par 1,618 et des poussières, et vous obtenez 2,618 et exactement les mêmes poussières. Et cette propriété-là fait que il y a des tas de constructions dans lesquelles cette propriété va arriver, dans lesquelles donc le nombre d'or va se retrouver. Par exemple, dès que vous avez un pentagone, eh bien la diagonale d'un pentagone, on peut montrer qu'elle a cette propriété, et donc la diagonale d'un pentagone est toujours 1,618 fois plus grande que son côté pour les pentagones réguliers. Donc, par exemple, si vous avez un ballon de foot, eh bien, sur les ballons de foot, il y a des pentagones dans la construction. Les pentagones, c'est les pièces noires. Il y a des hexagones blancs et des pentagones noirs. Eh bien, quand on fabrique un ballon de foot, eh bien, forcément, il faut tenir compte du nombre d'or, y compris en architecture aussi, dès qu'on a des formes pentagonales.
En peinture?
En peinture. Alors après, effectivement, il y a des artistes qui s'inspirent de ce nombre d'or en disant que ça permet d'avoir certaines propriétés géométriques dans leur tableau, en architecture également. Donc après, c'est un lien aussi entre les mathématiques et puis effectivement l'art qui peut s'inspirer de certaines propriétés mathématiques.
Il ne faut pas surinterpréter ce nombre d'or.
Voilà, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure pour la suite de Fibonacci, c'est-à-dire que des fois on entend des interprétations en disant que si on prend la distance qui va de tel doigt du doigt à notre coude et puis qu'on divise par la distance de notre pouce à notre auriculaire, eh bien on trouve un nombre qui vaut environ 1,6, mais c'est comme tout à l'heure. C'est pas parce qu'on a un nombre qui vaut environ 1,6 que c'est le nombre d'or. C'est-à-dire que le nombre d'or, il a un sens, il a cette propriété, et donc si à un moment donné on a un doute, on se dit « Ah tiens, dans la nature, on voit un nombre qui est à peu près égal à 1,6 », pour pouvoir l'interpréter comme le nombre d'or, à ce moment-là, il faut faire un raisonnement et expliquer pourquoi est-ce que cette propriété particulière apparaît dans la construction de ce nombre.
Louise Cuneo, du point où vous a retrouvé...
Oui, excusez-moi.
Vous vouliez réagir?
Non, mais je voulais effectivement raconter ce qu'on a très bien entendu ensuite dans le reportage sur le nombre d'or qu'on retrouve absolument partout, y compris sur le nombre de feuilles qu'il y a sur une tige de plante, ou effectivement, comme le disait Michael très justement, dans les écailles de l'ananas ou d'une pomme de pin.
Tiens, il est temps de retrouver l'ordonnance philosophique de notre camarade Thibaut de Saint-Maurice. Que vous inspire notre conversation du jour?
D'abord, Ali, une confidence. Voilà, vous l'avez dit vous aussi, mais moi aussi à mon tour. J'étais pas vraiment bon en maths au collège et au lycée. Alors pourquoi? Parce que je comprenais pas vraiment l'intérêt de passer autant de temps à chercher la valeur de x ou à m'arracher les cheveux que j'avais à l'époque pour dériver des fonctions. Je comprenais pas l'intérêt de faire ces exercices, ça me paraissait totalement déconnecté du réel, vous savez, de ce réel de collégien et de lycéen, c'est-à-dire de mes émotions, du sens de la vie. Et puis c'est en faisant des études de philosophie que j'ai compris la beauté des mathématiques, leur élégance, comme on dit, et toute la valeur des mathématiques. Alors certes, on peut trouver beaucoup d'applications concrètes des mathématiques, et on est en train de les décrire là, et certaines formules ou équations permettent de comprendre, de prévoir certaines réalités naturelles ou sociales, et donc donc, c'est vrai, on le dit, les mathématiques, elles ont plein d'utilité. Mais au-delà de ça, de leur utilité, elles ont de la valeur. Et moi, cette distinction, elle m'intéresse. Je la trouve importante parce que ce qui est utile, c'est ce qui rend un service ou ce qui comble un besoin. Mais ce qui a de la valeur, c'est ce qui inspire et c'est ce qui va motiver une action ou une règle de comportement.
Alors, comment guérit-on des mathématiques et qu'est-ce qui fait la valeur des mathématiques?
Eh ben, on peut relire Platon, du moins, le méditer matin, midi, soir, pendant 7 jours, par exemple, avec cette inscription qui aurait figuré au-dessus de l'académie, hein. L'académie, c'est l'école de philo fondée par Platon à Athènes. Il y avait écrit que nul, ou il y aurait eu écrit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Alors, on n'est pas bien certain que ce soit vraiment du Platon, mais c'est pas très grave. Parce que Platon le dit ailleurs dans son texte intitulé La République, les mathématiques sont la meilleure préparation au travail philosophique, c'est-à-dire à la recherche de la vérité et de la sagesse. Alors, question à 1000 points, en quoi la connaissance des triangles nous rend-elle plus sages? Eh bien parce que Platon avait totalement compris que les mathématiques indiquent deux choses. D'abord que nous sommes capables de connaître une vérité universelle, et puis ensuite que nous sommes capables de la connaître à partir du simple fonctionnement de notre raison. Voilà, et c'est ce qu'il y a de fascinant, hein, encore aujourd'hui évidemment, et qui au-delà de l'utilité des mathématiques en fait toute la valeur, c'est que les mathématiques, elles sont en chacun de nous la marque ou la possibilité de l'universel. Pour moi, comme pour chacun des hommes sur cette terre vivant, ou chacun des hommes qui a vécu ou qui vivra demain, en géométrie euclidienne, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Alors, ça règle pas directement le problème de la faim dans le monde, hein. Ça règle pas non plus directement la question de savoir comment élever nos enfants ou quelle destination choisir pour les prochaines vacances, mais ça constitue un entraînement nécessaire au développement en nous, en chacun de nous, de l'universel. Pour Platon, hein, le philosophe, c'est-à-dire l'homme qui aspire à la sagesse par la connaissance de la vérité, doit en passer par l'étude des mathématiques. Parce que les maths, c'est le sport de la raison. Alors, en vrai, on se fiche peut-être un peu de la valeur de X, mais le raisonnement, lui, qui conduit à la valeur de X, on ne s'en fiche pas. Platon en est convaincu, plus on est rationnel, plus on devient raisonnable. Voilà, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. En ce sens-là, c'est une inscription qu'on peut mettre tous au fronton de nos vies et qui nous invite tout simplement à ne pas oublier l'universel entre nous et l'universel en chacun de nous.
Dialogue avec le mathématicien Michael Launay, réaction à la chronique de Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, bah effectivement, c'est vrai que le fait que la valeur de X, finalement, c'est pas forcément ce qui nous intéresse, mais c'est le cheminement, effectivement, par lequel, à un moment donné, on se dit... On est face à un problème et on a envie d'y arriver, on a envie de trouver le chemin. Et presque ça, c'est un biais de mathématicien souvent, c'est qu'à partir du moment où on sait qu'on va y arriver, presque le problème s'arrête. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, ça c'est bon, on a la méthode. Et donc, bah, pourquoi finalement trouver la solution? Ça, c'est après un problème qui va se poser pour des ingénieurs, pour les gens qui concrètement ont besoin de construire des choses. Mais ce qui est important quand on fait des maths, c'est effectivement cette compréhension, cette profondeur de, on rentre dans le fond des choses et on a cette intime conviction qu'on a compris et qu'on a une vision globale des choses.
Et ça permet de mettre de l'épaisseur à notre vie quotidienne.
Oui.
Allez, vous pouvez retrouver la chronique de Thibaut de Saint-Maurice en vidéo sur la page Facebook de Grand Main vous fasse. Allez, on continue à s'amuser avec les mathématiques du quotidien. 01 45 24 7000.
Je le savais, le cœur a ses failles. Pourtant c'est vrai, la surprise est de taille. Un mot de cette histoire de fou allié. Y avait-il un défaut, un vice caché?
Un jour amiral, un autre chavis.
Vanessa Paradis interprétait Vague à l'âme sœur.
Si on prend comme hypothèse que la racine cubique de x varie en fonction de l'infini,
grand bien vous fasse,
tu n'as plus qu'à subdiviser l'ensemble qui tendra vers l'asymptote.
Ali Rebbi.
Exactement, c'est bon, j'ai compris.
C'est France Inter.
10h41 et ce matin, en cette période de vacances scolaires, je vous propose de nous amuser avec les mathématiques du quotidien avec Mickaël Launay, alias Micmat, qui publie le théorème du parapluie avec Louise Cunéo du Point. Lucie nous demande comment intégrer les maths au quotidien, à la maison, de façon ludique. Mickaël Launay.
Il y a plein de façons de faire des maths, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on trouve plein de ressources sur Internet qui permettent d'entrer dans les maths, et puis surtout ça peut dépendre de chacun. Ça peut être par des activités comme par exemple de l'origami. L'origami c'est quelque chose qui marche assez bien. Dans un mois on va entrer dans la période de Noël et faire des étoiles en origami, c'est des choses géométriques qu'on peut mettre dans le sapin, et donc c'est quelque chose, c'est pareil, là on trouve des tutos sur Internet, et c'est une très bonne façon d'entrer en géométrie, de comprendre ce qu'on fait, de se dire comment il faut plier telle pièce pour que ça s'emboîte bien et pour qu'à la fin on ait le bon nombre, on ait la bonne symétrie, qu'on n'ait pas une étoile un peu bancale avec des pics qui sont pas réguliers.
On peut par exemple expliquer ce qu'est un algorithme en faisant une recette de cuisine, une recette de pâtisserie.
Voilà, alors là, après, effectivement, quand on a des petits qui sont...
La recette de cuisine est un algorithme.
C'est une forme d'algorithme, d'algorithme élémentaire.
Expliquez pourquoi.
Moi, je comprends pas.
Si, par exemple, quand on a une procédure, il faut utiliser 125 grammes de farine, 200 grammes de sucre, etc.
La recette fonctionne parce que les chiffres et les proportions sont conservés, et si on en change un, ça fonctionne plus, c'est ça?
Après, oui, effectivement, si par exemple, on veut utiliser la proportionnalité avec les recettes de cuisine, ça permet... On a des mathématiques élémentaires dans plein de choses quotidiennes. Ça, c'est avec les plus petits qui sont en train d'apprendre à faire des multiplications, des divisions. Comment est-ce qu'on fait ça?
La recette est un algorithme parce qu'on suit un programme précis.
Voilà. Alors c'est un algorithme mais qui est vraiment élémentaire.
Bien sûr,
on n'est pas sur des algorithmes où on a des boucles ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on applique juste une suite de points les uns derrière les autres. Mais effectivement, après des algorithmes, on peut en avoir des plus complexes où effectivement il va falloir répéter certaines procédures, où on va devoir revenir en arrière. On va devoir se dire, tiens, tel processus, il faut le répéter 50 fois pour pouvoir aboutir au résultat qu'on veut, et voilà.
Louise Cunéo, un peu de maths au quotidien avec vous, vous êtes rédactrice en chef du hors-série du Point consacré à ce sujet. Il m'est arrivé, comme beaucoup, d'attendre le bus 20-30 minutes, et puis comme par hasard, deux bus, puis un troisième arrivent quasiment en même temps, et les mathématiques expliquent ce phénomène très fréquent.
Oui, alors d'abord pour revenir un tout petit peu sur ce que disait Mickaël Launay, on peut tout à fait faire des maths dans la vie quotidienne en oubliant aussi de sortir son téléphone quand il s'agit de faire un calcul simple. Mmh. C'est-à-dire que si on oublie la calculatrice, on peut tout à fait réussir à réintégrer les maths au quotidien sans difficulté. Alors après, pour l'histoire des bus, finalement, il y a deux Anglais qui s'appellent Eastaway et Wilham qui ont démontré en fait qu'il valait mieux rater son bus pour être moins en retard.
Ah
alors
bon,
c'est une petite histoire de retard de bus et les bus qui se rattrapent au fur et à mesure de la ligne, puisque si on imagine qu'un bus quitte les entrepôts à intervalles réguliers, les passagers, eux, arrivent en ordre dispersé aux arrêts. Alors lorsqu'un afflux de passagers plus important que d'habitude arrive soudainement à un arrêt, le bus va prendre du retard. À l'arrêt suivant, le bus arrive donc un peu plus tard que prévu et va devoir faire monter plus de passagers à bord. Résultat, le deuxième bus va se rapprocher du premier, d'autant qu'il ira encore plus vite puisqu'il aura, lui, moins de passagers à faire monter.
Donc, il vaut mieux, quand on a raté un bus... c'est quoi ce que vous disiez? Il vaut mieux... C'est quoi la règle, en fait?
Ce que disent les Anglais, c'est qu'il vaut mieux rater son bus parfois l'avoir, parce qu'on a plus de chances d'avoir moins de retard. Voilà.
C'est bien noté. Thibaut de Saint-Maurice a noté aussi. j'ai puisé aussi dans votre hors-série le fait qu'il vaut mieux marcher ou est-ce qu'il vaut mieux courir quand il pleut?
Alors ça dépend évidemment de la vitesse du vent et de l'inclinaison des gouttes de pluie quand on marche. Mais c'est une question qui taraude régulièrement les mathématiciens, et la dernière preuve qui en a été faite, c'est effectivement qu'il vaut mieux courir sous la pluie parce qu'on est moins mouillé par le nombre de gouttes qui tombent que si jamais on marche. Voilà.
Est-ce qu'on avait vraiment besoin des maths pour comprendre ça? Je ne sais pas. Vaut mieux peut-être avoir un parapluie tout simplement. Et d'ailleurs, Mickaël Launay, pourquoi votre livre s'appelle Le théorème du parapluie?
Ça, c'est une métaphore qui suit un peu tout au long du livre. Le parapluie, c'est un exemple qui est souvent utilisé quand on fait de ce genre de choses en maths, qui symbolise le changement de point de vue. C'est-à-dire que quand on fait des sciences, on a le monde réel. Et puis le monde réel, on va le simplifier en le modélisant par un monde mathématique dans lequel tout est abstrait, mais tout est beaucoup plus élégant. C'est-à-dire que les choses fonctionnent bien, on peut faire des calculs et y a moins d'aspérité. Et puis une fois qu'on a fait notre calcul, on a fait notre raisonnement, on a fait ce qu'on voulait faire dans le monde mathématique, on va l'interpréter en monde réel. Et donc d'une certaine manière, on passe en mode mathématique pour aboutir au résultat. Et donc j'utilise la métaphore du parapluie, c'est si vous voulez marcher sous la pluie justement... Eh bien, il faut mieux se mettre le parapluie d'abord au-dessus de la tête, vous ouvrez votre parapluie étape 1, puis vous marchez étape 2, puis vous fermez votre parapluie étape 3. Et donc, le monde particulier que vous ouvre ce parapluie vous permet de faire le voyage sans être mouillé. Et donc, de la même manière que les mathématiques sont le parapluie de la science.
Je vous cite, le parapluie, c'est le changement de point de vue, c'est le décalage, c'est l'art de faire un pas de côté pour voir les choses sous un autre angle, plus adapté et plus efficace. Quelle est la sagesse du théorème du parapluie que l'on pourrait peut-être appliquer dans notre vie de tous les jours ?
Bah, c'est que finalement, des fois, les choses qui peuvent nous paraître les plus complexes ne le sont pas tant que ça, mais il ne s'agit pas de faire des calculs très compliqués, il ne s'agit pas vraiment de s'acharner sur quelque chose, mais parfois justement de faire un pas de côté, de changer de point de vue, et ça arrive très souvent dans l'histoire des sciences, et c'est toujours un moment très satisfaisant. Il y a certains problèmes, je parle dans ce livre d'un problème qui s'appelle celui du cinquième postulat, qui a duré pendant 23 siècles.
C'est quoi ?
Pendant 23 siècles. Alors c'est un problème de géométrie et de savoir si certains axiomes en géométrie, donc on parlait tout à l'heure d'Euclide et de la géométrie euclidienne, Euclide a fondé toute la géométrie sur cinq postulats, c'est-à-dire cinq axiomes, cinq vérités élémentaires qu'il admet au début de ses livres, de ses éléments d'Euclide. Et puis, à partir de là, il fait des raisonnements et il démontre la somme des angles d'un triangle, le théorème de Pythagore et toute la géométrie qu'on apprend à l'école. Et des mathématiciens et mathématiciennes, par la suite, se sont demandé est-ce que c'est possible de faire moins que cinq axiomes, d'en faire que quatre ? Alors parmi ces axiomes, il y avait par exemple le fait que par deux points passe toujours une et une seule droite, etc. Vraiment des choses assez élémentaires comme ça. Et ça a duré 23 siècles. On s'est demandé est-ce qu'on peut construire la même géométrie qu'Euclide, mais seulement en admettant que quatre vérités élémentaires. Et ce problème a été résolu au 19e siècle. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait la réponse n'est pas si compliquée que ça. C'est-à-dire que pendant 23 siècles, il y a des savants, les plus grands cerveaux de leur génération qui se sont penchés sur ce problème et qui n'ont pas réussi à le résoudre, qui n'ont pas réussi à apporter une réponse. Et pourtant, eh bien, aujourd'hui, n'importe qui se penche un peu sur le sujet peut, et j'explique la solution dans le livre, peut comprendre ce problème en un quart d'heure, 20 minutes. Et si on avait une machine à remonter dans le temps, on pourrait aller voir tous ceux qui ont réfléchi là-dessus toute leur vie dans les siècles passés et leur dire, bah voilà, t'as un quart d'heure, on peut vous l'expliquer. Et c'est ça qui est assez impressionnant. C'est quand juste un changement de point de vue fait que d'un seul coup, on a un état d'évidence qui se crée et que d'un seul coup, on se dit, ça y est, maintenant, on peut plus ne pas comprendre. Il y a un déclic qui est très satisfaisant, qui est très jubilatoire.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, c'est fascinant et en même temps, de manière un peu provocante, vous l'avez dit, les axiomes d'Euclide sont des postulats. Mm-hmm. Et en un sens, c'est un peu parfois le talon d'Achille de cette construction mathématique parce qu'ils ne sont pas démontrés. C'est des choses qui nous paraissent vraies, mais est-ce que au fond on n'est pas sur une sorte d'immense château de cartes ?
Ça dépend ce qu'on attend en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on fait des maths, on essaye d'établir des choses qui sont vraies. Mais pour les déduire, pour faire des raisonnements, il faut bien partir de quelque part. On peut pas, si on essaye de reconstruire l'ensemble des mathématiques, les premières phrases de la première affirmation qu'on va faire en mathématiques, il faut qu'elles soient admises. On peut pas l'avoir démontrée puisque c'est la première et qu'on n'a rien avant. Et donc, finalement, en maths, on part du principe qu'on a des axiomes et que, moyennant ces axiomes, une fois qu'on les a admis, on construit des choses. Et donc, tout ce qu'on sait par la suite, c'est des choses qui sont vraies dans le système qu'on a créé à l'intérieur de ces axiomes. Mais on est dans un monde abstrait et on peut tout à fait construire d'autres mondes abstraits dans lesquels ces axiomes-là ne sont pas vrais, mais ça va être d'autres axiomes. Et effectivement, il y a cette phrase de Bertrand Russell qui disait...
Philosophe
et mathématicien qui a beaucoup travaillé sur les fondements des mathématiques et qui disait « La mathématique sont la discipline qui peuvent être définies comme la discipline où on ne sait pas si ce qu'on dit est vrai. » Et effectivement... on ne sait pas vraiment de quoi on parle quand on fait des maths. Rien que les nombres, si on dit que 1 plus 2 égale 3... Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'un crayon plus deux crayons valent trois crayons ? Est-ce que ça veut dire qu'une chaise plus deux chaises font trois chaises ? Le fait qu'on soit dans ce monde imaginaire fait qu'on a des idéalités, des nombres 1, 2 et 3. Et on s'est rendu compte que, quels que soient les objets qu'on compte, 1 plus 2, ça fait toujours 3. Et donc, on n'a pas besoin de préciser. Donc, on ne sait pas de quoi on parle, Mais malgré ça, eh bien, on sait que c'est cohérent. On sait que c'est cohérent et on sait qu'on arrive à penser juste avec des objets dont on ne sait pas vraiment ce qu'ils désignent.
À propos de penser juste, de quelle manière les mathématiques peuvent être un rempart contre les théories du complot ?
Ah bah alors ça, les mathématiques, c'est une façon d'aiguiser son esprit critique, c'est une façon de justement d'apprendre à raisonner juste, parce que même si on est dans des théories abstraites, les raisonnements en eux-mêmes, ils permettent de comprendre des choses. Et alors c'est vrai qu'on est à une époque aujourd'hui où il y a beaucoup de défiance vis-à-vis de ce qu'on entend un peu partout, que ce soit dans les médias, par les politiques et même par les scientifiques. Et pour pouvoir effacer cette défiance, pour pouvoir la diminuer, eh bien, il faut comprendre. C'est-à-dire que quand des scientifiques vont affirmer quelque chose, eh bien, c'est bien, on peut pouvoir leur faire confiance, mais c'est bien aussi de savoir un peu comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce résultat. À quoi ça ressemble la recherche ? Comment est-ce qu'à un moment donné, on a un article qui est publié, qui affirme telle ou telle chose ? À quel point on peut lui faire confiance ? À quel point est-ce que quand on a 10 articles qui disent la même chose et un qui dit le contraire, qu'est-ce qu'on peut dire ? À quel point on peut avoir confiance là-dedans ? Et donc, c'est important de savoir comment fonctionne ce processus de recherche scientifique pour avoir de l'esprit critique, pour avoir du recul dessus et pour pouvoir se faire son avis sans être dans un état un peu intermédiaire dans lequel finalement on ne sait pas trop à qui on doit faire confiance, on ne sait pas trop à quel point on peut accorder notre confiance à des choses qu'on entend. Et donc forcément, savoir comment ça marche, ça aide à ça.
Allez, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. I had to think about my oldest friends. Now I no longer hang with them and I can't wait to be home again. I had a year that nearly sent me off the edge. I feel like a five, I can't pretend. But if I get my shit together this year, maybe I'll be a ten. Help myself a little better, cause it's getting tiring. And I can't wait for the summer. No, I'm gonna need a moment. I did it again, I did it again. No control over my emotions, 1 year. Still can't focus. I did it again. Yeah, I did it again. 12 rounds in, fighting solo, but nobody wins when it ends. We'll be placing memories in frames, inviting people round to stay, and always owning up to things, cause after all, I guess it all depends upon the people you choose and where you're from. Been so lucky so far, it's outrageous. I won't complain. Give myself a little credit since I dealt with all the pain. Yeah, I turned superhero. I'm coming in Bruce Wayne. Yeah, I did it again, I did it again. But this time I took control and turned my shit around. Sometimes you gotta cut a bitch out. I'm living again, yeah, I'm living again. Strength to carry on, and though it's still hard work to find the words, I'm still gonna write this fucking song. Cause after all, I guess it all depends upon the people you choose and where you're from.
Je vais vous faire un aveu, c'est l'une de mes chansons préférées en ce moment. Rex Orange County, interprété Ten Ten.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et on accueille Mathieu. Bonjour Mathieu, bienvenue dans Grand bien vous fasse.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Alors ?
Alors, moi je suis professeur de français, mais je suis assez convaincu de la valeur et de l'utilité des mathématiques en termes de raisonnement et d'esprit critique. Et je m'interrogeais sur le fait que un tiers des élèves de 15-16 ans maintenant arrêtent de faire des mathématiques complètement avec la réforme du lycée. Il y a un enseignement scientifique, mais ils arrêtent complètement les mathématiques. Et quelle peut être la conséquence sociale de cette évolution ?
Très bonne question de Mathieu Michael Launay.
Alors, je ne sais pas si les statistiques sont justes, en tout cas, c'est peut-être une tendance.
Alors, effectivement, sur la réforme là, qui pose beaucoup de questions en ce moment chez les profs, moi, je ne connais pas exactement dans le détail, mais je trouve ça effectivement dommage que les mathématiques soient complètement arrêtées par une certaine proportion d'élèves. C'est vrai qu'avant, on avait des élèves qui s'en sortaient bien en maths et puis des élèves qui avaient tendance à être traumatisés ou qui pouvaient vraiment sortir du système scolaire en n'aimant pas cette discipline. Et je pense que le bon équilibre qu'il faudrait trouver, c'est réussir à faire des maths à tout le monde, mais des maths qui permettent aux élèves qui, comme on disait tout à l'heure, ne sont pas forcément ceux qui ont envie de faire des études scientifiques après, qui leur permettent de dire après plus tard, moi j'aimais bien les maths, c'était pas ce que je préférais, mais j'ai appris des choses, j'ai appris à raisonner, j'ai appris des choses à mon niveau. Et c'est vrai que arrêter les mathématiques comme ça, alors il paraît qu'il y en aura, il va y en avoir dans l'enseignement scientifique, mais c'est vrai que ne pas avoir de cours spécifiques en maths, c'est quand même quelque chose de dommage.
Louise Cunéo, du Point.
Oui, alors ça fait effectivement partie de la réforme. Charles Torossian, qui est l'inspecteur général qui est chargé des maths et du plan maths avec Cédric Villani, a créé des laboratoires de mathématiques dans 200 lycées et 150 collèges en France depuis la rentrée 2019. L'idée, c'est de dire on va faire des maths à l'extérieur des cours et les profs de géographie, les profs de français, pourquoi pas, enfin d'autres profs de d'autres matières pourraient montrer comment on peut faire des maths au quotidien. Alors est-ce que ça va marcher? Ça, rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, l'idée générale, c'est de sortir les maths du cours de maths à lui seul pour les mettre un peu partout dans la scolarité.
Merci beaucoup Mathieu pour votre question. Tiens, Jessica nous demande à quel âge on peut regarder votre chaîne YouTube Micmath. Elle a des enfants visiblement en bas âge, mais elle a envie de leur donner le goût des maths. À partir de quel âge on peut
En fait, le truc avec cette chaîne, c'est que j'y mets un peu en vrac plein de petites pastilles sur des vidéos. Alors il y en a certaines qui sont un peu plus complexes, puis il y en a certaines qui sont tout à fait élémentaires. Je sais que on parlait d'origami tout à l'heure, j'ai fait quelques vidéos d'origami et je sais qu'il y a régulièrement parfois des parents, des grands-parents qui me disent que le mercredi après-midi, ils font ça avec leurs enfants dès 5-6 ans. Voilà. Peut-être avant 5-6 ans, c'est quand même un peu juste.
On va faire des origamis cet après-midi. Merci beaucoup Louise Cunéo. On peut lire avec profit votre hors-série Les maths au quotidien et on peut lire aussi avec grand plaisir le théorème du paradoxe. Pluie ou l'art d'observer le monde dans le bon sens de Michael Launay alias Micmath est publié chez Flammarion. Nous enregistrons, merci beaucoup Michael Launay, nous enregistrons une émission sur le don avec le sociologue Alain Caillé. Dites-nous maintenant sur notre page Facebook pourquoi vous donnez de votre temps, pourquoi vous donnez de votre personne quand vous faites quelque chose, pourquoi vous avez également donné un organe. Dites-nous tout sur la page Facebook. Et puis demain nous vous donnerons quelques clés pour ne pas sombrer dans le blues du dimanche soir, surtout en cette période où les jours raccourcissent, heures d'hiver oblige. Quelles sont vos stratégies pour ne pas déprimer le dimanche soir? Sur l'appli et le site de France Inter.